Chapitre 43. Samuel Trépieur ressemblait à un vieux beatnik avec ses longs cheveux gris et ses chemises hawaïennes, et ses discours anti-système respiraient la conviction chevillée à l'âme. Cependant, il fallait bien reconnaître qu'il savait se servir des outils du dit système, surtout lorsqu'il s'agissait d'en pointer les excès et les failles. Lors de leur dernière rencontre, Atticus lui avait demandé si Eneka avait des connexions avec des entomologistes, et Trépieur n'était pas homme à rester sans réponse. Il avait fait ses devoirs avec application, et surtout un sens du détail digne d'un fouineur professionnel. Cet Internet qu'il détestait, il en faisait pourtant son terrain de jeu lorsque nécessaire. Sa synthèse se résumait en une trentaine de pages imprimées depuis différents sites, glissées dans une enveloppe marron. Le pli n'était pas signé, mais Atticus n'avait aucun doute. Ça ne pouvait être que lui. Il était le seul à qui il avait posé cette question et qui disposait des ressources pour fournir ce genre de rapport qu'il avait déposé sur son palier anonymement. J'estime davantage la propagation de la vérité que mon succès personnel, donc je partage. C'étaient ses mots. Atticus avait lu l'ensemble dans la nuit, surlignant les passages qui attiraient son attention. Depuis presque 10 ans, Eneka avait investi plusieurs centaines de millions de dollars dans le rachat de sociétés spécialisées dans les biotechnologies avec un axe évident. Le domaine du minuscule. Trépieur avait exhumé une des rares déclarations d'Edwin Kowalski au cours de cette période d'acquisition. La biomasse des insectes et plus globalement de toutes les créatures associées représente la très grande majorité de ce qui vit sur notre planète. Quiconque en percera les mystères contrôlera les ressources essentielles à la survie de l'espèce humaine. Un discours qu'Atticus n'eut aucune peine à imaginer prononcé par le mania de la science. Il ne manquait que la tirade suivante où il préconisait la destruction d'une partie de l'humanité afin que les surhommes émergent. Restait l'objectif réel derrière. Atticus avait du mal à croire que ses investissements ne visaient à long terme qu'une simple opération économique. Kowalski avait une vision. Son obsession des insectes allait au-delà du désir d'offrir à l'humanité de nouvelles sources de protéines pour son alimentation, ou même une main-d'œuvre réduite et corvéable à merci. Il y avait un objectif moins avouable. Le mode opératoire du tueur d'Oscar Ryoto ou de Copelson le confirme. Ils sont parvenus à quelque chose avec ces insectes. Petit à petit, Atticus envisageait des hypothèses glaçantes qu'il finit par écarter faute de preuves. Il n'était pas utile de se perdre en conjectures farfelues, pas maintenant. La liste des laboratoires suivait, sur plus de 10 pages, et lorsque Trépieur était parvenu à décortiquer la spécialisation ou les fonctions de ceux-ci, il avait indiqué en dessous. À 5 heures du matin, lorsque le réveil avait sonné, Atticus avait bondi de son lit, en sueur, épuisé par le manque de sommeil et des cauchemars terrifiants. Les inspecteurs de la RHD s'étaient regroupés au commissariat de Valley Bureau, de l'autre côté des montagnes de Griffiths Park, tout près du siège de la fondation Long Life Harmony. Une horde de 6 enquêteurs pour coordonner 15 officiers en uniforme. Le brief fut rapide et précis. Ils venaient pour saisir des documents en relation avec les disparitions de Skid Row, ainsi que les dossiers du personnel. Il fallait notamment mettre un nom sur le chargé de la sécurité qui accompagnait Ximena Torrebiarte lors de ses missions à Downtown, celui qu'elle accusait d'être venu la menacer pour l'obliger à tendre un piège à Oscar Ryoto. Dès qu'ils auraient son identité, ils le passeraient à la moulinette du LAPD dans l'espoir de prouver son implication dans le meurtre du journaliste. Atticus se faisait peu d'illusions, et la perquisition ne fit que confirmer son pessimisme. Long Life Harmony était prévenue, et tout le temps perdu par la RHD leur avait permis de se mettre à l'abri. Atticus enrageait en silence. Il savait que les cartons saisis se révéleraient inutiles. Tout avait déjà été nettoyé. Les employés compromettants effacés du moindre répertoire, des consignes données aux autres. Et Eneka était efficace. Atticus fulminait ouvertement. Il ne cachait pas sa frustration, tandis qu'il aidait à déménager les boîtes de documents saisis. Il y avait de quoi remplir plusieurs coffres de voiture. Des journées de vérification se profilaient, et elles seraient vaines. Quelqu'un de haut placé avait fait traîner. Ils auraient dû foncer le jour même du témoignage de Ximena. Atticus bousculait, Atticus jurait, Atticus ordonnait, transportait, et petit à petit parvint à créer un vide autour de lui, chacun prenant soin de l'éviter pour s'épargner sa mauvaise humeur. Et dès qu'il le put, il déposa dans son propre véhicule les deux cartons qui l'intéressaient tout particulièrement sans que personne ne le remarque. En milieu de matinée, lorsque la perquisition fut achevée, il s'adressa à Connor Hogan de la RHD. « J'imagine que tout part directement pour vos bureaux. Je vous rejoins dans l'après-midi. » Hogan ne lui répondit même pas et claqua sa portière. « Connard. » Atticus fit mine de se diriger vers Hollywood Station pour donner le change au cas où il aurait été suivi. Et lorsqu'il fut convaincu que personne n'était dans son sillage, il bifurqua pour atteindre Silver Lake et rentrer chez lui, où il monta les deux cartons à la hâte, jetant régulièrement des coups d'œil inquiets vers la rue. Il vida le contenu de sa prise sur la table de son salon et fit un pas en arrière pour admirer les piles de dossiers. Tous les questionnaires remplis par l'équipe de Skid Row, dont Ximena Torrebiarte. Ça n'avait pas été simple de les repérer durant la perquisition sans attirer l'attention de ses collègues. Encore plus difficile de les mettre de côté pour les transporter lui-même et au bon moment, mais il y était parvenu. Il fit chauffer de l'eau pour se faire un thé au gingembre et attaqua. Les questionnaires s'étalaient sur 4 pages imprimées, des cases à cocher, des rubriques à compléter. En lisant un exemplaire, Atticus fut stupéfait de la précision et l'exigence des réponses demandées aux sans-abri. Identité complète, date de naissance, numéro de sécurité sociale lorsque connu, le plus d'adresses antérieures possible. La famille n'était pas épargnée non plus. On leur demandait de détailler leur mode de vie d'autrefois lorsqu'ils étaient insérés. Et pour finir, on les interrogeait sur leur vie dans la rue, leurs amis, leurs habitudes, addictions, et ainsi de suite. Si la personne disséquée voulait obtenir sa rétribution en nature, il fallait qu'elle accepte cet éclairage cru braqué sur son existence de tout déballer, se mettre à nu, avant de repartir avec son ballot de nourriture. À la lecture d'un cas, Atticus fut frappé par le nombre de données recueillies. Long Life Harmony ne pouvait pas les publier sans passer pour trop inquisitrice, même en brandissant le prétexte d'une étude complète et étayée. À coup sûr, cela faisait partie de leur stratégie si l'on venait à s'intéresser à leur action. Ces données relevaient de l'intimité des volontaires et serviraient à établir des schémas, définir des modèles pour améliorer la prévention, empêcher au mieux de futures désocialisations. En aucun cas, ils n'autoriseraient la consultation des données brutes. Mais Atticus savait quel était l'objectif réel derrière ces questionnaires. Cerner des proies faciles, isolées, avec peu ou pas de lien. Il termina son thé et se lança dans le tri. Le plus simple et rapide fut de les classer en fonction de leur auteur, avant qu'Atticus puisse sélectionner exclusivement ceux qui avaient été rapportés par Ximena. À partir de là, il reprit la liste des noms que Mel, le clochard de Skid Row, lui avait confiés. Dominique Shepard, Baby Roy, Laurette et Ravnik Tchessernikov. À présent, il fallait tenter de les retrouver dans le tas. Atticus prenait le soin de bien lire chaque nom et prénom, conscient que Mel s'était basé sur la phonétique et qu'il devait exister une large part d'approximation ou qu'il pouvait s'agir de surnoms, comme dans le cas de Baby Roy. Et petit à petit, la magie opéra. Dominique Shepard, Laurette Nichols, Radnik Tchernikov. Seul Roy manquait à l'appel, mais Atticus avait mis de côté 3 questionnaires qui pouvaient correspondre. Douglas Royston, Dean Roy Esther et Michael Roy Reynolds. La lecture de leur dossier confirma leur potentiel de cible facile. Tous vivaient un peu à l'écart des groupes, se faisaient discrets ou au contraire n'éprouvaient aucune forme de méfiance, comme Laurette Nichols, qu'on devinait capable de grimper dans la première voiture qui passe en échange d'un peu de nourriture ou d'alcool. Il les avait retrouvés. Chaque nom avait à présent un passé, une existence bien définie. Et mieux encore, à partir de là, Atticus espérait pouvoir comprendre ce qui avait motivé Eneka à les tuer. Vérifier s'il n'existait pas un lien, une explication à leur mort.